Bien enfoncé dans son fauteuil de cinéma, Guy Debord dévorait l'écran où s'écoulait librement le traité de bave et d'éternité d'Isidore Isou. Debord venait d'avoir 19 ans et ce film allait chambouler sa vie. Il se mit à rêvasser à son avenir. Je voudrais inventer un jeu de guerre inspiré de Clausewitz, écrire des livres complexes et étonnants, participer à l'établissement d'une nouvelle civilisation, monter un groupe, prolonger l'action des communards de 1871, rencontrer beaucoup de gens, citer souvent le cardinal de Ré, quitter Cannes pour arpenter Paris, hurler en faveur de Sade, faire un film en noir et blanc sans gris, annoncer le déclin de la société du spectacle. Soudain, le jeune Guy fut tiré de sa rêverie par le rugissement horrifié d'un spectateur exaspéré par le film d'Isidore Isou. Guy Debord sourit et se dit que ce qu'il aimerait vraiment, c'est provoquer lui aussi ce genre de cri et devenir un franc-tireur pour dynamiter les perversités illusoires du vide.
Le caractère illusoire des richesses que prétend distribuer la société actuelle, s'il n'avait pas été reconnu en toutes les autres matières, serait suffisamment démontré par cette seule observation que c'est la première fois qu'un système de tyrannie entretient aussi mal ses familiers, ses experts, ses bouffons. Serviteurs surmenés du vide, le vide les gratifie en monnaie à son effigie. Autrement dit, c'est la première fois que des pauvres croient faire partie d'une élite économique malgré l'évidence contraire.
Cécile Gilbert, Emmanuel Guy, bonsoir.
Bonsoir.
Et soyez les bienvenus. Alors, Emmanuel Guy, vous êtes le commissaire, le co-commissaire, j'ai envie de dire, d'une exposition qui se tient à la BNF en ce moment, qui est ouverte il y a quelques jours, intitulée « Un art de la guerre », qui dit exposition, dit catalogue disponible. C'est une coédition BNF Gallimard. Et pour commencer, j'ai une question qui est un peu anecdotique. Enfin, je ne sais pas si elle est tant que ça anecdotique. Quand on ouvre le catalogue, on tombe sur une photo de Guy Debord, année 50, on va dire. Je crois qu'elle est sans date, cette photo. On l'aperçoit, il est coupé en deux parce qu'il est derrière un mur. Il est habillé en veste, on dirait du tweed. Et il tient un couteau dans sa main, assez agressif. On a l'impression que c'est presque un psychopathe, un serial killer américain des années 50. C'est curieux de voir un catalogue d'exposition. Il est effrayant de bord sur cette photo, non ?
Alors, il faut regarder la dernière image aussi, en fait, qui est un groupe de trois hommes qu'on voit de dos, Galerie du Double Doute. Et tout ce qui se passe entre ces deux pages, la première et la dernière, donc Guy Debord qui vous attend au tournant, et puis Guy Debord et ses camarades, parce qu'il n'était jamais seul, qui partent de dos et que vous voyez, parce que vous êtes soit à terre ou debout et vous voulez les suivre. C'est à ça qu'on a pensé, Laurence et moi, Laurence Lebras et moi-même, en composant ce catalogue.
Mais je te l'avais dit, Colin, tu vois, rien n'est laissé au hasard, c'est pas des cons. Tout est réfléchi. Les gens de la BNF, ils sont comme ça. C'était sûr, même sur de mort.
J'ai jamais dit ça.
C'est intéressant, cet angle choisi, un art de la guerre, pour parler de Guy Debord. Évidemment, quand on voit l'exposition, quand on regarde le catalogue, on comprend pourquoi l'ensemble de l'œuvre de Guy Debord peut se lire à travers la guerre. Mais de manière plus prosaïque, on peut dire déjà que Guy Debord est un enfant de la guerre, parce qu'il est né dans un contexte particulier. Il est né en 31, donc il a une dizaine d'années quand la guerre commence. C'est aussi important pour comprendre qui est Guy Debord, la guerre. Cécile Gilbert.
Oui, c'est un enfant de la dépression, et puis c'est un enfant qui se rend compte, puisque justement, au sortir de la guerre et de ces fameuses années 50, il se rend compte que se met en place quelque chose qui est... peut-être un décor déjà, quelque chose de fallacieux. C'est pour ça qu'il sera tant intéressé à la ville. Moi, je trouve que cette histoire de la guerre, si vous voulez, elle est d'une certaine façon pas tellement assez illustrée par cette expo Guy Debord.
Parce que vous auriez été encore plus loin, vous.
Non, bah, c'est-à-dire que la guerre, c'est une guerre qu'il a menée, une stratégie de vie, une façon de vivre, une façon de se comporter vis-à-vis de l'argent, une façon de se comporter vis-à-vis du pouvoir, qui est extrêmement singulière, enfin qui est exceptionnelle. C'est sans doute un des penseurs le plus radical de la deuxième moitié du XXe siècle, notamment en France. Donc moi, cet art de la guerre, je trouve qu'il est un petit peu noyé. Alors évidemment, on a le fameux jeu de la guerre, qui est le soi-disant le clou de l'expo, mais qui est en fait d'une certaine façon un peu anecdotique. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait des choses sur notamment l'argent.
Voilà. Ce jeu de la guerre, c'est un jeu de société inventé par Guy Debord, un jeu avec un...
Oui, c'est un Kriegspiel inspiré de Clausewitz.
Vous parliez de Guy Debord comme d'un grand penseur du XXe siècle, et c'est donc le rapport à l'argent qui, qui vous préoccupe. On ne l'évoque pas dans l'exposition, ce rapport à l'argent, si ce n'est qu'on travaille, on commence par le ne travailler jamais. Effectivement, Guy Debord ne travaille pas. Et on mentionne à chaque fois que cela est nécessaire, avec Asger Jorn, par exemple, ou Gérard Lebovici, qui ont été des amis, des compagnons de route, et aussi des mécènes. La chose nous paraissait suffisante.
Vous n'êtes pas sans savoir que Guy Debord a décidé de publier en 1994, par exemple, des contrats, les contrats qu'il avait signés avec les producteurs. Que la mort a interrompu, mais qui sont parus en 95. Et c'est tout à fait étonnant de voir cette publication de contrats. Guy Debord, vous savez aussi que son rapport à l'édition... Moi, je vais vous dire une chose tout de suite. Il y a quelque chose qui m'a un petit peu choqué quand j'ai eu le catalogue en main. C'est par exemple de voir la chronologie dès le départ. Il y a une chronologie de sa vie et qui excède sa vie, puisqu'il est mort en 94, mais il s'est passé des choses. Après, on a publié des choses de son œuvre. C'est-à-dire de ne pas voir qui l'a publié, à quel moment, pourquoi. Ça, c'est une question qui est stratégique. Ne pas dire chez quel éditeur ces livres ont été publiés, que Gallimard, qui publie le catalogue, bon, dise ok, on publie en 2006 les œuvres complètes de Debord qui avaient déjà fait l'objet de réédition. Mais comment on est passé, si vous voulez, des lettres d'insultes des années 50 à Gallimard à Debord chez Gallimard de son vivant? Voilà, il y a des choses comme ça qui sont pour moi, mais fondamentales, si vous voulez, qui n'y sont pas. Alors
je crois qu'elles y sont, en fait. Précisément, la chronologie mentionne ces éléments-là. C'est-à-dire qu'on a dépassé Debord. Et on parle de l'édition Quarto, du coffret Gaumont. Pourquoi ? Parce que pour une génération comme la mienne, j'ai pas encore 30 ans, Guy Debord, on l'a pas découvert par des éditions pirates, de la société spectacle. On l'a découvert de manière extrêmement institutionnelle. C'est-à-dire grâce à l'édition Quarto, chez Gallimard, chez qui vous êtes également édité, Cécile Gilbert, à travers un coffret DVD fait par Gaumont. Et donc, on a découvert Debord par des voies très institutionnelles. Et ça, précisément, pour nous, la stratégie de Debord, l'exposition de Guy Debord, Un art de la guerre à la BNF, et surtout, c'est là le plus important peut-être, l'entrée du fonds Guy Debord à la BNF, pour nous, c'est ça sa stratégie, ça en fait partie, c'est pour ça. C'est quand même un argument qu'on développe dans l'exposition de Guy Debord en archiviste de lui-même. On parle dans le catalogue, comme dans l'exposition, du projet de bibliothèque situationniste de Silkeborg, du dépôt des archives situationnistes à Amsterdam. Il y a finalement chez Guy Debord une stratégie qui est celle de dire « quoi après moi ? Qu'est-ce qu'on fait ?» Et donc, il prépare stratégiquement, vous avez raison de le souligner, Cécile Gilbert, sa postérité, en passant chez Gallimard, en publiant celui du spectacle chez Buchet-Chastel, puisque le cœur de cette stratégie, c'est quoi ? C'est comment transmettre une théorie émancipatrice, comment transmettre ce goût de la révolution, ce goût de la révolte. Et ça doit passer parfois par des voies qui permettent une diffusion large, comme par exemple être édité chez Gallimard, comme on le souligne dans la chronologie.
Voilà, donc l'auditeur qui prend la conversation, il se dit « mais à la base, j'étais plutôt favorable à cette exposition, et puis là, j'écoute Cécile Gilbert, et est-ce que je dois changer de bord ?» Mais au fait, mais qui est Guy Debord ? Rappelons-le aussi. Non mais c'est une des vertus aussi de l'exposition, c'est de rappeler étape par étape qui est Guy Debord. Les premières salles, par exemple, c'est sur son activité autour du lettrisme, l'international lettriste. Waouh ! C'est quoi ça, déjà, pour commencer ?
Effectivement, la difficulté était de donner vie à une aventure qui est assez loin pour nous longtemps. Debord est devenu un classique. Ces années 50, surtout pour moi, elles sont très loin. Donc il fallait redonner chair un petit peu à tout ça. Alors on parle du lettrisme, effectivement, mais on replace ça dans un contexte de vie aussi, avec des photos d'Ed van der Elsken, une carte qu'on a créée, en reprenant bien sûr ce motif de la carte, très cher à Guy Debord, qui écrit à Floriane Lebovici, la femme de son éditeur, qu'on ne peut pas comprendre la stratégie sans référence à la cartographie. C'est pour ça qu'il y a tant de cartes dans l'exposition. Une carte où on place les lieux où déambulait Debord au cours de ces fameuses dérives, puisque Debord est d'abord, et aussi, disons, il n'est d'abord rien, mais il est aussi un grand marcheur. Il dérive dans les rues de Paris. Il faut imaginer un jeune homme qui passe la guerre finalement assez protégé de tout ça. On parlait de la guerre tout à l'heure, et il déménage au gré des rencontres matrimoniales, disons, de sa mère. Il grandit dans un relatif confort. Vous disiez qu'il était un enfant de la crise années 30, oui, mais bon, Manou envoie de l'argent une fois qu'il est à Paris. Il a une enfance assez protégée finalement. Il arrive à Paris et il veut découvrir la capitale. C'est pour ça que l'évocation que vous aviez tout à l'heure était assez juste. Si ce n'est que Guy Debord, assistant au film d'Izou, n'était pas assis dans un fauteuil. Il était là pour cracher sur les... C'est à peu près ça, sauf que Guy Debord était en train de cracher sur le public, de jeter de la farine au Festival de Cannes en 51. Et donc, voilà, le lettrisme, par exemple, c'est l'avant-garde, la plus à la pointe aux yeux de Guy Debord quand il arrive à Paris. Donc c'est ce qu'on appelait l'approche. Toute l'exposition et tous les moments stratégiques de la vie de Guy Debord sont décrits avec des termes stratégiques. L'approche, déploiement, changement de front stratégique, la charge de la brigade légère. Et donc, il arrive à Paris, c'est l'approche. Il fait ses classes dans l'avant-garde, il essaie de se positionner à la pointe extrême pour pouvoir dépasser cette pointe extrême du lettrisme avec la fondation d'un mouvement à lui, l'international lettriste.
Alors, évidemment, tout ce qu'on évoque là est devenu, sous un sceau officiel, trésor national, l'œuvre de Guy Debord. Alors, on a un peu senti, hein, sur le début de cette discussion, Cécile Guilbert, que vous n'êtes pas totalement séduite par cette exposition. Est-ce que c'est peut-être par le fait que Debord, face à cette exposition, n'aurait peut-être pas eu les réactions qu'on pourrait attendre? Est-ce que Debord, trésor national, c'est pas un peu étrange aujourd'hui quand on peut se revendiquer d'une certaine tradition situationniste?
Personnellement, je ne me revendique de rien. Non, cette exposition est passionnante.
C'est pas à vous que je pensais, c'est un mouvement en général.
Elle permet de découvrir des documents qui sont tout à fait fascinants. Il y a des choses passionnantes dans cette exposition. Simplement, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'il y a une aporie, évidemment, qu'il y a une aporie dans le terme « exposé de bord ». Il y a une contradiction, il y a quelque chose. Bon. Et d'ailleurs, les gens qui ont fait cette exposition le savent, puisque à l'intérieur même du catalogue, il y a un texte qui parle de cette question. Moi, j'aurais préféré que cette question soit évoquée de façon liminaire, si vous voulez. Parce que la contradiction est tellement évidente. Il ne s'agit pas de récupérer Debord, d'instrumentaliser Debord. Debord lui-même, vous avez raison de le dire, Emmanuel Guy, a organisé sa postérité, ses archives. Simplement, ce que je trouve, c'est que quand moi, à vrai dire, je dis ça de façon désintéressée, parce que je connais très bien Debord. Je pense à des jeunes de 20 ans qui ne connaissent pas Debord et qui sont nés encore plus tard que vous, et donc qui ont été entièrement dressés par la société du spectacle, comme on pourrait dire, qui ont une façon de se comporter vis-à-vis de la culture, vis-à-vis de tout ça. Ils rentrent là-dedans. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un individu, voilà, qui est né en 31, et puis ils voient une exposition se déployant en plusieurs sections. 6 sections plus un épilogue, disons, qui est repris dans le catalogue. Or, dans ces 6 sections, si vous voulez, il y en a 5 qui sont consacrées au Debord collectif de l'avant-garde. Alors ça, c'est très intéressant, mais si vous voulez, moi, ce que je considère, c'est que si Debord est si fondamental aujourd'hui, et s'il continue à nous parler, c'est bien parce qu'à un moment, il y a l'éruption d'un sujet à la première personne, qui est quand il se met à dire « je » et qui dit plus « nous, l'international lettriste, nous, l'international situationniste ». Il a dissous en 72 l'international situationniste, il reste encore 20 ans, et là, il fait des choses qui sont fondamentales. Je sais pas, les commentaires sur la société du spectacle, pour moi, ne pas les mettre après la société du spectacle, c'est comme si vous avez l'Ulysse de Joyce et vous n'avez pas Finnegan's Wake. C'est-à-dire que... Et ça, je trouve que ça n'apparaît pas assez, cet art extrême, cet art singulier, qui est une grande pensée, qui est un grand art radical, si vous voulez, n'apparaît pas assez. Il est trop noyé, si vous voulez, dans le collectif de l'IS.
Alors,
peut-être, pardon, parce que les archives personnelles et les archives du mouvement sont mêlées dans l'expo.
Eh bien, alors...
Emmanuel Guy répondait.
Je crois que, alors c'est un petit peu le défaut que je trouvais dans votre livre pour Guy Debord, cette manière d'hypostasier Debord, en fait, d'en faire un grand écrivain, de préparer son entrée à la Pléiade, d'écrire des livres.
J'ai préparé aucune entrée à la Pléiade. Pour moi, c'est pas un grand écrivain, c'est un grand penseur, c'est très différent.
C'est un grand penseur, mais ce fameux jeu, etc. Ce qui nous importait, c'était de le replacer dans des contextes, de le replacer dans son époque, de montrer qu'il avait les yeux sur terre. Pas d'en faire, pas de l'hypostasier, pas d'en faire une espèce de... d'être comme ça, qui serait hors du temps. Donc il était important pour nous de déployer sa vie comme celle de Don Quichotte, si vous voulez. Il y a une première partie où Guy Debord est là, comme Don Quichotte. Le monde, le siècle de fer dans lequel il se trouve ne lui plaît pas. Et il a ses livres de chevalerie à la main. C'est pour ça que les fiches sont au centre aussi de l'exposition. Il vit sa vie là, d'avant-garde, avec les livres à la main, ses Iliades, ses Don Quichotte aussi, les livres de chevalerie, cet imaginaire-là de la guerre. Tout ça se passe comme ça. Et la seconde partie, c'est comme la seconde partie de Don Quichotte. On a Guy Debord qui est toujours là, qui revient en quelque sorte avec des livres à la première personne, comme Panégyrique, effectivement, comme mentionné, ou Injirum, un film à la première personne, des commentaires sur la suite du spectacle, qu'on ne pouvait pas mettre à côté de la suite du spectacle, puisque 20 ans se sont passés entre les deux, et ces 20 ans-là sont absolument importants. C'est ce qui fait la différence. On ne pouvait pas les mettre à côté, parce qu'ils appartiennent à deux époques différentes, ces livres-là. Et donc, comme Don Quichotte revient dans la deuxième partie du roman de Cervantes pour finalement contredire toutes les mauvaises suites ou les fausses suites qui ont été données à lui-même, Guy Debord revient d'une autre manière avec ce jeu, effectivement, ce jeu qui permet de s'installer face à la suite du spectacle. Puisque les commentaires à la suite du spectacle, contrairement à ce que je crois que vous écrivez, Cécile Guilbert, c'est pas Baudrillard, c'est pas un monde où tout d'un coup il n'y a plus d'extérieur. Au contraire, Guy Debord dit l'extérieur, par exemple, c'est moi. Mais il peut y avoir autre chose que lui-même. Il y a un extérieur à cette société du spectacle. Guy Debord n'est pas Baudrillard, clairement, par exemple, là-dessus.
J'ai jamais écrit que Guy Debord était Baudrillard. Je considère les commentaires sur la société du spectacle comme un livre décisif, puisque précisément, il continue à nous parler. Et aujourd'hui même, alors que la société du spectacle est le règne autocratique de la société marchande devenue irresponsable, qu'est-ce qu'on voit avec la finance? Qu'est-ce qu'on voit avec la mafia?
Oui, toutes ces notions... Vous écrivez le spectacle qui en est anti dans son ubiquité faste, jusqu'à la possibilité même d'un ailleurs. Et ça, je crois que vous avez tort. Bah, Guy Debord ne cesse de dire qu'il y a un ailleurs. Et cet ailleurs, c'est par exemple le
dans un monde réellement unifié, on ne peut s'exiler des Guy Debord. Ce qui... Attendez, moi j'ai écrit mon livre en 96. En 96, il s'était passé déjà beaucoup de choses qui ne sont pas dans les commentaires sur la société du spectacle, notamment l'ubiquité numérique, la mise en réseau à tout moment, sur chaque point de la planète. Si vous voulez, ça, c'était des choses... Moi, j'étais très intéressé, par exemple, de voir dans l'exposition que Guy Debord avait lu Heidegger. Parce que, puisque aujourd'hui, Heidegger est plus ou moins un écrivain, enfin un penseur qu'on associe au nazisme systématiquement, de voir que Guy Debord avait réfléchi à Heidegger, l'avait lu, l'avait commenté. Il y a des fiches qui
Et lu, vous voyez comment il le lut grâce à cette revue Argument. C'est-à-dire qu'il ne lit pas Heidegger dans le texte, puisqu'il ne lit pas l'allemand, mais il lit Heidegger comme un homme de son temps, c'est-à-dire il le découvre à travers des revues très spécifiques. Il ne lit pas Heidegger comme on pourrait lire aujourd'hui en œuvre complète. Il le lit à travers le biais qui est celui de cette revue Argument, sur laquelle il tire à boulet rouge, mais avec lequel il se sent une forme de proximité. Et c'est là, par exemple, voilà... Effectivement, Guy Debord lit Heidegger, mais comment est-ce qu'il le lit? C'est ça qui nous paraît important, cette espèce de contextualisation, d'approche historique, qui permet de ne pas en faire une espèce de grand auteur, de grand classique, même si c'est ce qu'il est également.
Alors, on va reprendre l'intitulé de l'exposition, un art de la guerre. D'ailleurs, vous avez signé un très bon papier dans le magazine littéraire, Cécile Gilbert, en celui cas, moi je trouve qu'il est très bon, l'arsenal verbal du général Debord. Et c'est vrai qu'il faut essayer d'expliquer à nos auditeurs que c'est curieux, un art de la guerre, c'est assez fort comme intitulé, ou l'arsenal verbal, mais il faut bien comprendre à quel point Debord est fasciné par la stratégie, par Clausewitz, par l'art de la guerre, justement. Il y a beaucoup dans le catalogue et dans l'exposition des dessins où il se place avec des gens autour de lui, et il met des rapports de force entre les gens, sa situation à lui par rapport aux autres. Alors on a envie de poser la question, est-ce que c'est un soldat, Guy Debord, Cécile Gilbert?
J'ai trouvé très émouvant dans l'exposition qu'il y ait ces petits soldats de plomb et que l'exposition insiste sur cet esprit d'enfance, parce que c'est ça qui est très émouvant et très beau. Et c'est en même temps un petit garçon, d'une certaine façon, qui le reste toute sa vie, qui s'amuse à la guerre.
Il le dit beaucoup, d'ailleurs.
Et en même temps, c'est aussi un général dans la mesure où il a eu des troupes et qu'il a joué un rôle historique. Et je pense que les premières munitions sont évidemment les munitions qu'il trouve dans la bibliothèque, puisqu'il a une culture classique... éblouissante et qui remonte à l'Antiquité, et elle se déploie, et il déploie sa pensée grâce à cette bibliothèque. C'est bien aussi d'avoir ses fiches, d'avoir cette bibliothèque portative, les citations qu'il utilise, qu'il retourne. C'est la grande influence de Lautréamont, enfin d'Isidore Ducas, c'est-à-dire cet art de la citation détournée, du renversement des significations qu'on peut leur donner. Oui, c'est un guerrier d'une certaine façon, mais il s'est défini comme ça, il s'est défini comme penseur stratégique. Il a mené beaucoup de batailles, il en a perdu certaines, mais est-ce qu'il a perdu la guerre, ça ? Les questions restent peut-être ouvertes.
Oui, alors c'est vrai que là on est plutôt sur le après, mais pour commenter Debord, faut comprendre Debord pour commenter la société du spectacle. Emmanuel Guy, je suis avec vous, non, je plaisante, Cécile Gilbert. Non, il y a un peu de ça. C'est vrai que pour commencer à comprendre les critiques sur le situationnisme ou sur Debord même, faut comprendre ce qu'est le situationnisme. Et c'est pas simple, c'est vraiment pas simple. On va pas ici faire un cours sur qu'est-ce que le situationnisme, vous allez nous le rappeler vite fait, mais c'est surtout comprendre, et on le voit bien en deux, trois salles de l'expo, comment... Tout mai 68, toute cette pensée est déjà là en germe dans la tête de Debord 10 ans avant. C'est ça, c'est quoi le situationnisme déjà dans ces années fin 50, années 60?
Alors, le situationnisme est un terme que les situationnistes eux rejetaient, parce que pour eux, c'était les pratiques situationnistes, les situationnistes. Il s'agissait de ne pas devenir un isme, justement. Et en cela, à la fois de s'inscrire et de ne pas s'inscrire dans cette continuité des avant-gardes modernistes, le dada, pardon, les surréalistes, c'est-à-dire réunir l'art et la vie. Le projet, c'est ça. Mais ça paraît très abstrait comme ça, réunir l'art et la vie, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Développer des pratiques dont on parle dans l'exposition, savoir le détournement, par exemple, qui consiste à prendre un élément de la culture, du texte, des images, et non pas tellement à lui faire dire autre chose que ce qu'il veut dire, mais à lui faire dire sa vérité intrinsèque, qui est bien souvent être celle d'être au service du spectacle. Et qu'est-ce que le spectacle? Le spectacle, c'est toutes ces images produites en foule par les médias, par le pouvoir, par l'économie, tous ces rôles sociaux aussi, ça peut être le dirigeant politique, la pin-up, même le rebelle qui porte un t-shirt de Che Guevara. Voilà, tout ça, c'est des rôles sociaux pour Debord. Et donc, c'est autant d'images, de rôles sociaux qui font écran entre nous et le monde et la vie véritablement vécue. Mais cette vie véritablement vécue, ça aussi, c'est quand même quelque chose d'attrait. Qu'est-ce que ça veut dire, une vie véritablement vécue? Est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir un rapport direct à la vie? C'est pas ça que Debord veut dire. Et c'est pour ça qu'on a mis les centres, au centre de l'exposition, les fiches de lecture. Le rapport de Debord à la vie, à la vraie vie, la vie authentiquement vécue, il se passe à travers les livres, par exemple. Et quand je dis vie authentiquement vécue, bien sûr, je détourne la Proust. Donc il y a, chez Debord, une manière de vivre qui passe, par exemple, par le littéraire. Et ça, en mettant les fiches de lecture au centre de l'exposition, elles irradient, parce que c'est là, c'est l'espace le plus éclairé, elles irradient tout le reste. C'est-à-dire que Debord vit chaque moment à travers le littéraire. On repérera, par exemple, une petite fiche qui cite l'Iliade et les casques de fer des Troyens qui s'entrechoquent sur le champ de bataille. Guy Debord note à côté, mai 68. Parce que ça lui rappelle les casques des CRS qui s'entrechoquent sur les champs de bataille de la rue Gay-Lussac.
Alors, nous avons une discussion très sérieuse, tous les quatre, et je me disais à l'instant, s'il nous écoutait, Debord, peut-être qu'il se marrerait, qu'il se moquerait de nous, parce que j'ai envie de dire qu'une de ses plus belles armes, les plus affûtées, les plus efficaces dans cet art de la guerre, c'est l'humour. C'est qu'il ne faut pas non plus totalement détacher Debord de cet esprit à la fois joyeux et ludique, et aussi très, très ironique. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour chez Debord. C'est une façon aussi d'aborder le monde, Cécile Guilbert, non ?
Ah ben bien sûr, il y a un rire, il y a un rire sarcastique, il y a de l'ironie, il y a beaucoup de jeu. Enfin, le jeu est au centre, hein, pas seulement le jeu de la guerre, mais le jeu de la vie, le jeu l'ivresse. Debord avait un corps. Enfin, si vous voulez, toutes ces dimensions sont extrêmement intéressantes. C'est pour ça qu'il ne faut pas, évidemment, fétichiser les choses sur l'idéologie, l'avant-gardisme, surtout. Il y a eu évidemment beaucoup de textes produits, des manifestes, des revues, des tas de choses. Mais si vous voulez, ce qu'on aime entendre vibrer, c'est aussi c'est le corps de Debord, sa voix, son rire, son façon dont il s'est beaucoup moqué. Mais alors, on revient sur cette histoire d'Apoiry, parce que d'une façon, comment effectivement parler d'un homme qui a disqualifié à l'avance tout ce que vous pourrez dire de lui, c'est quasiment impossible. Donc on est toujours en porte-à-faux d'une certaine façon.
Et il y a un élément qui est extrêmement troublant avec une exposition institutionnel, on ne peut pas faire plus, c'est la Bibliothèque nationale, quand elle expose du tract fait comme ça par des gens dans des cafés à la cool, et puis ils boivent beaucoup, ils rigolent beaucoup, et on prend une photo pornographique pour simplifier les choses, parce qu'il y a des nénés, et puis on met une bulle pour en faire d'un seul coup un tract, je pense notamment à ceux qui sont destinés à l'Espagne. C'est très difficile d'un seul coup, ce contraste, de mettre cet élément comme ça sous vitrine. Comment on fait ?
Exposer l'archive, c'est ce qu'il y a de plus difficile, et surtout les archives de mouvements d'avant-garde, puisqu'il s'agit quand même de ça pour le moment où vous parlez. Alors comment est-ce qu'on fait ? On fait les choses les plus simples possibles. On utilise du craft, voilà, ça paraît rien, c'est trois fois rien, mais il y a à la BNF des gens qui s'occupent de fabriquer les expositions, puisque nous on les a pensées, mais ensuite il y a plein de gens qui les fabriquent, et voilà, il faut arriver à arranger ça le plus simplement possible. Les pin-up, c'est un point intéressant, par exemple, qui montre la réactivité, on a essayé de le montrer dans l'exposition, la réactivité de Debord, alors même qu'il est passé aux politiques, on est en 63, donc pour résumer, hein, l'international situationniste est fondé en 1957, de la réunion de groupes d'avant-garde européens, donc tout d'un coup ça s'installe, c'est un déploiement dans le champ de l'avant-garde européenne, et puis au tournant des années 60, avec des rencontres, avec des groupes politiques, notamment Stanislas Barbary, des philosophes, Henri Lefebvre, l'international situationniste devient un mouvement politique. Mais même quand elle est dans le politique, elle réutilise l'art, elle s'intéresse à la culture. Pourquoi ? En 63, en novembre, paraît en France le premier numéro de lui. C'est un événement fou. Ça veut dire que si vous voulez voir des nénés, comme vous dites, vous n'allez plus au sex shop du coin, vous pouvez aller chez le buraliste et vous acheter lui en tout bien, tout honneur. Six mois plus tard, les situationnistes découpent Valérie Lagrange, qu'on connaît aujourd'hui pour être une chanteuse, et au lieu de lui faire vendre les bagnoles et les cigarettes qu'on pouvait voir dans les pages de lui, lui font dire des éléments de théorie révolutionnaire, lui font redire le slogan de la Première Internationale. Donc il y a là une réactivité, en fait, à l'actualité, à ce qui se passe dans la culture qui est importante, et c'est relayé en plus dans la culture. C'est pour ça qu'on montre une coupure de presse qui mentionne ces fameux tracts qu'on a essayé de montrer effectivement de la manière la plus discrète possible, c'est-à-dire sans encadrement, pour ainsi dire.
Mais on est perdant.
On est perdant dans tous les cas. Mais on fait au mieux, hein, bien sûr. Et c'est le rôle de la Bibliothèque nationale, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que c'est très difficile de donner cette vivacité. Vous parliez tout à l'heure, Cécile Guilbert, de vibrer. C'est super dur. Il y a dans les films, peut-être, un peu.
Il ne faut pas se voler la face ensuite. Je crois qu'on n'allait pas jouer les situationnistes. On n'allait pas... vous parliez pour que la guerre soit plus présente. Qu'est-ce qu'il fallait ? Des fumigènes, des bruits d'ambulance, des canons.
Il y en a un peu, de toute façon. Il y a un reportage sur mai 68.
Mais plus de guerre. La guerre, elle est présente à travers tous les termes clés de l'exposition, à travers l'approche historique. Une guerre, c'est ça. Hein. Une guerre, ce n'est pas une rêverie. C'est quelque chose qui est ancré dans le réel, ancré dans des contextes. Voilà, donc on est perdant, bien sûr, mais il ne faut pas se voiler la face. On est dans un après. L'exposition se termine, comme votre livre, d'ailleurs, j'ai noté ça cet après-midi, par à reprendre depuis le début. Parce que, de même qu'en 96, vous deviez penser qu'une nouvelle ère commençait. Debord était né depuis 2 ans. Votre livre paraissait parmi ses nombreux ouvrages parus après la mort de Guy Debord. Et de même, 10 ans après votre livre, on dit, voilà, un autre temps doit s'ouvrir. Debord est devenu un classique, on le lit chez Gallimard, effectivement. Mais il s'agit maintenant de reprendre depuis le début, de venir travailler sur le fond, et puis de continuer à penser le contemporain.
Guy Debord, un art de la guerre, c'était la BNF exposition qui a lieu jusqu'à début juillet, hein, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça, 13 juillet.
Absolument.
Je dis pas de bêtises, voilà. Et puis il y a donc ce très bel article dans le magazine littéraire du mois d'avril, signé Cécile Gilbert. On peut également lire pour Guy Debord, chez Gallimard, L'Infini, également signé Cécile Gilbert. Et puis il y a toujours Réanimation chez Grasset, qui concourt, j'y crois, pour le prix du livre inter, Cécile Gilbert, me semble-t-il. On vous souhaite la meilleure chance possible.
Merci.